de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Directeur, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Beats of Paradise a été nominé pour le meilleur film Oscar Academy Award. Contre le radicalisme dès son plus jeune âge. Des représentants de 10 pays ont assisté à IPB pour discuter des écosystèmes côtiers. L'Indonésie a choisi neutre en ce qui concerne le conflit au Cachemire. Deux étudiantes chinoises assisteront à la cérémonie du jour de l'indépendance de la République d'Indonésie au Palais Merdeka. Et enfin, le Canada appuie les organisations des femmes en Indonésie. Voici le journal complet. Le film Beats of Paradise, l'œuvre de la réalisatrice indonésienne Li Bingjing, peut entrer dans l'industrie cinématographique hollywoodienne aux États-Unis et être nominé pour la catégorie The Academy Award Oscar for Best Picture. Lors d'une projection de presse tenue à Jakarta mercredi le 14 août, le ministre indonésien du Tourisme Arif Yahya a exprimé son soutien à la candidature car il pouvait bien représenter les destinations touristiques indonésiennes.
Pariwisata sudah. Picturesnya bagus sekali. Kalau memang masuk, saya setuju tuh.
Les images sont superbes. Je suis d'accord que ce film est la meilleure image, car les images sont bonnes dans de bonnes destinations touristiques. J'espère que le film pourra inspirer d'autres amis. Li Bingjing fera également un film sur Belitung. Nous introduisons bien les destinations touristiques. Il y a des projections de films sur Ubud, Canggu, de nombreux lieux de destinations présentés dans ce film. Je suis de plus en plus convaincu que le film est l'un des médias pour une promotion efficace. Le ministre Arif a déclaré que son parti continuerait à soutenir des activités positives pour promouvoir les destinations touristiques indonésiennes dans le monde. À la même occasion, la réalisatrice Li Bingjing a déclaré qu'il continuerait à promouvoir les destinations touristiques indonésiennes auprès de l'industrie cinématographique mondiale, en particulier Hollywood. L'Indonésie a récemment été confrontée au problème de radicalisme. L'un des efforts pour lutter contre cette question, la direction de l'éducation de la petite enfance du ministère indonésien de l'éducation et de la culture a organisé une activité PAUD Ghost Museum. Les étudiants de PAUD ont visité le musée. PAUD est une abréviation de l'éducation de la petite enfance.
Jadi ide awalnya adalah bagaimana agar anak-anak usia dini kita itu sejak awal telah tertanam dalam dirinya semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
L'idée initiale est pour que notre petite enfance, depuis le début, ont l'esprit du nationalisme et de l'amour pour la patrie. On leur a enseigné l'esprit du nationalisme et de l'amour pour la patrie dès leur plus jeune âge, de sorte qu'ils grandissent et se développent en une génération indonésienne KM LRP Mekyong Egalemang Indovision Global Fort. Muhammad Hasbi a déclaré que le musée a été choisi comme lieu principal de l'événement Port Ghost Museum car le musée avait une histoire depuis la première fois que la nation indonésienne existait. À travers le musée, on espère que les enfants sauront qui est leur pays et que cela pourra être exercé à l'âge adulte. Des représentants de 10 pays membres de la Société pour les études des écosystèmes côtiers Asie-Pacifique ont assisté au symposium international de 2019 organisé sur le campus de l'Institut agriculture de Bogor, la résidence de Bogor dans l'ouest de Java, du 12 au 16 août. L'activité a discuté des écosystèmes côtiers. Comme cité par Republika Online, le président du comité organisateur local de la Société pour les écosystèmes côtiers Asie-Pacifique, Yusli Wardiatno, a récemment déclaré que le symposium était organisé par l'Indonésie en raison de l'abondance des ressources côtières marines et de la grande biodiversité de l'Indonésie. Il espérait que les 180 participants venus du Japon, de Myanmar, des Philippines, de Taïwan, de Thaïlande, de Singapour, de l'Inde, de la Russie et d'Allemagne pourraient apprendre et échanger des informations. Le gouvernement indonésien choisi pour être neutre au conflit dans la région du Cachemire impliquant l'Inde et le Pakistan. Mardi, le Pakistan a persuadé l'Indonésie d'aider à faire pression l'Inde sur le Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il révoque le statut de privilège de Cachemire. Le porte-parole par intérim du ministère des Affaires étrangères, Tengku Faizah Shah, sur cnnindonesia.com par le biais de son réseau social a déclaré mercredi, tant en Inde qu'au Pakistan, l'Indonésie encourage toujours pour que tous les deux puissent prioriser la résolution de problèmes par le dialogue bilatéral. Le différend entre le Pakistan et l'Inde s'est réchauffé l'année dernière. Cela s'est produit après que le Pakistan ait accusé l'Inde de largeur des bombes sur la région du Cachemire qu'elle contrôlait. Deux étudiantes chinoises qui étudiaient dans le département de la langue indonésienne ont la possibilité d'assister à la cérémonie du jour de l'indépendance indonésienne au Palais Merdeka à Jakarta le 17 août avec 32 autres étudiants de 17 pays. L'agence de presse Antara a rapporté l'attaché d'éducation et de culture de l'ambassade indonésienne à Pékin, Yaya Sutari, a déclaré mercredi que ces étudiantes du deuxième semestre du département de langue indonésienne de l'Université des études internationales de Xi'an dans la province de Shaanxi, Ge Tianxin, étaient le meilleur participant au concours de discours en langue indonésienne pour le locuteur étranger participé par une centaine d'étudiants du département de langue indonésienne. Pendant ce temps, Ye Zelang, étudiante du département de langue indonésienne au quatrième semestre de l'Université d'études étrangères de Tianjin, en ville de Tianjin, a remporté le concours de conte en indonésien pour des locuteurs étrangers auxquels ont également participé 100 étudiants du département de la langue indonésienne. Pendant leur séjour en Indonésie, les deux étudiantes rejoindront avec 31 autres étudiants étrangers proviennent entre autres des États-Unis, d'Arabie Saoudite, d'Australie, des Philippines et d'Ouzbékistan qui participent au même programme. Peter MacArthur, ambassadeur du Canada en Indonésie et au Timor-Leste, a annoncé mercredi à Jakarta que le Canada appuierait deux programmes sonores et du leadership des femmes qui soutiennent les organisations féminines de base en Indonésie. Le communiqué de presse de l'ambassade du Canada reçu par la voix d'Indonésie à Jakarta mercredi indique que le soutien était sous forme des fonds totalisant 6,23 millions de dollars américains qui ont été donnés aux fondations d'autonomisation de PK et Hivos. Peter MacArthur a déclaré qu'en soutenant PK et Hivos à travers la voix et le leadership des femmes, le Canada continue de prendre des mesures concrètes pour renforcer les groupes de femmes et comprendre les défis auxquels font face les femmes et les filles. En outre, il aidera également l'Indonésie à faire progresser le programme des objectifs de développement durable pour 2030. Le Canada s'est associé avec l'Indonésie pour faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes afin de réaliser leurs objectifs socio-économiques plus larges. Cerita, saya telejurnal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Serge Milanten, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, la créativité est importante pour le progrès du secteur du tourisme. Le secteur du tourisme continue d'obtenir l'attention du gouvernement compte tenu sa contribution aux recettes de l'État augmente. Le tourisme intégré aux industries créatives peut être une attraction incroyable et avoir une bonne compétitivité. Les deux sont inséparables car ils se soutiennent mutuellement. Par conséquent, la sensibilisation et l'engagement doivent être construits pour faire progresser les deux secteurs. Les progrès de ces deux secteurs sont très positifs dans l'augmentation des devises du pays. L'Indonésie, riche en diversité culturelle et en attractions naturelles, peut attirer les touristes étrangers. La beauté naturelle et l'excellent service du secteur des industries créatives peuvent faire les touristes à rester plus longtemps et à la fin, ils peuvent dépenser plus d'argent pour faire du shopping. Le développement de l'industrie créative dans une région peut créer des attractions touristiques. C'est ce qu'a déclaré Hassan Aboud, directeur des relations interinstitutionnelles de l'Agence pour l'économie créative, ou BECRAF. Le gouvernement régional a défini les besoins de l'industrie créative. L'ANDO est le gouvernement provincial de Java Occidental qui a regroupé le potentiel des industries créatives réparties dans 27 régions ou villes telles que le centre de l'industrie de coton à Cirebon, le centre de l'industrie de bambou à Tasikmalaya et les aires de la chaîne à Karawang, Yogyakarta, Bali, Riau, Surabaya et la résidence Banyuwangi sont également considérées comme prêtes. La tenue de 99 festivals pour attirer les touristes et les faire rester plus longtemps à Banyuwangi prouve que la créativité peut stimuler le secteur du tourisme. En outre, le gouvernement Banyuwangi a créé l'emplacement du parc agrotouristique Taman Suruh au pied du Mont Ijen pour le festival de l'exposition de l'agro, comme destination touristique chaque week-end. L'activité économique se déroule parallèlement au nombre croissant de touristes nationaux et étrangers se rendant à Banyuwangi. Sulawesi du Nord est une autre région qui bénéficie également d'activités touristiques. En 2015, 20 000 touristes étrangers ont visité cette région et en 2018, ce nombre était passé à 120 000. Cette année, Sulawesi du Nord organise 14 activités principales dans 15 villes et régions. Par conséquent, le secteur du tourisme et de l'industrie créative doivent créer une synergie pour créer une variété d'activités intéressantes et de produits innovants pouvant être compétitifs. Certes, le potentiel touristique et la culture distinctive de chaque région doivent être préservés et démontrés aux touristes nationaux et étrangers. Enfin, chaque région, tant dans les villes que dans les résidences d'Indonésie, peut devenir une destination touristique favorite. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Oh, Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, mettons nous allons vous présenter l'histoire d'aujourd'hui. Le 15 août 1914, le canal de Panama, on l'a ouvert pour la croisière. Le canal de Panama est un canal qui coupe l'isthme du Panama sur 82 km, coupe l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et relie l'océan Pacifique et Atlantique. Ce canal réduit le temps de déplacement des navires car on n'a pas besoin de tourner à la pointe sud de l'Amérique du Sud. Ce plan de construction de canal est apparu en 1500. La France a commencé la construction du canal en 1881, mais elle a été arrêtée en raison de problèmes techniques et du taux de mortalité élevé de ses travailleurs. Les États-Unis ont repris le projet en 1904. Et enfin, le canal de Panama a été achevé et il a été officiellement ouvert le 15 août 1914. Le 15 août 1962, la signature de l'accord de New York. L'accord de New York est un accord de transfert de pouvoir sur l'Irlande occidentale des Pays-Bas à l'Indonésie. L'accord à New York, on l'a fait à l'initiative du diplomatique américain Ellsworth Bunker. Le 15 août 1962, on a signé l'accord de New York prévoyant la reddition de la Papouasie occidentale des Pays-Bas à l'Indonésie par l'intermédiaire de l'autorité exécutive temporaire des Nations Unies ou UNTEA. Le 1er mai 1963, la Papouasie occidentale est officiellement rentrée en Indonésie. La position de la Papouasie occidentale est devenue plus sûre après la détermination de l'opinion publique ou PEPERA en 1969. Le peuple de la Papouasie occidentale a choisi de rester au sein de la République d'Indonésie. Le 15 août 2005, l'accord de paix d'Aceh a signé à Helsinki, en Finlande. L'accord de paix d'Aceh est un accord qui met fin au conflit armé entre le gouvernement indonésien et le mouvement pour la liberté Aceh ou Gerakan Aceh Merdeka ou GAM à Aceh au nord de l'île de Sumatra. On a signé un accord de paix à Helsinki en Finlande le 15 août 2005 et l'Indonésie était représentée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Hamid Awaluddin, tandis que le GAM envoyé Malik Mahmoud Al-Haytar. Le processus de paix a ensuite été suivi par une équipe appelée la mission de surveillance d'Aceh, composée de 5 pays de l'ASEAN et plusieurs pays de l'Union européenne. Chers amis, voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Pandanglah ke depan, kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan, kita melangkah menuju kemenangan.
Matahari bersinar benderang, menyinari cita-cita gemilang. Walau mendung datang menantang, kita tegak.
Oh,
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée « Janger Persahabatan » chantée par Neve, Dea et Ariel Noah. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter la rubrique « Mon Indonésie » intitulée « La ministre de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya » a déclaré sur les incendies dans le parc national de Teso Nilo. La ministre de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya, a évoqué les incendies de forêts et de terres au Karhutla dans le parc national de Teso Nilo à Riau, qui a lieu sporadiquement et menace la survie d'animaux protégés tels que les éléphants et les tigres de Sumatra. C'est ce qu'a déclaré la ministre qui accompagnait le commandant de TNI, le maréchal Hadi Cahyanto, et le chef de la police nationale, M. Tito Karnavian, à la base aérienne Rusmin Nuryadin de Pekanbaru, Langdi. Il a souligné que le processus judiciaire pour les auteurs des incendies de terre de Teso Nilo sera continué. Il y aura deux autres acteurs impliquant des individus, mais ayant une assez grande quantité de terre qui seront bientôt traitées par la loi. Selon la ministre, l'application de la loi est devenue un élément important pour dissuader les auteurs de brûleurs de terre. Pour cette raison, elle assure que l'application de la loi contre les brûleurs de terre est optimale. La ministre enquête également sur un certain nombre de sociétés dans la région de Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu et Indragiri Hilir. Il a déclaré qu'il y avait les incendies de forêt et de terre dans les quatre régions liées aux sociétés de plantation. S'il y a une entreprise impliquée dans le cas d'un incendie de forêt ou de terre, il fournira des sanctions fermes ayant des administratifs sous forme d'une révocation de licence et des sanctions civiles et pénales. Madame Siti Nurbaya a également averti 55 entreprises de plusieurs provinces liées aux incendies de forêt. Bien qu'elle n'ait pas expliqué en détail les 55 sociétés en question, elle a confirmé que certaines d'entre elles se trouvaient dans la province de Riau. Le ministère de l'Environnement et des Forêts va collaborer avec la police nationale pour lutter contre les brûleurs, y compris dans le parc national de Teso Nilo, actuellement en mauvais état en raison de pillages qui provoquent des incendies, des forêts et de terres. Monsieur Halasan Toulouse, le directeur du bureau du parc national de Teso Nilo, a déclaré que les conditions étaient vraiment très chères à cause de la sécheresse, mais il était très improbable que des incendies se produisent naturellement. Les zones brûlées se trouvent principalement dans des endroits occupés par la communauté, comme dans la région de Toro. Hassan Toulouse a ajouté que la zone brûlée de Teso Nilo n'avait pas encore atteint sa forêt naturelle, mais qu'elle s'était bien approchée de la Camp Team Flying Squad qui contenait 8 éléphants apprivoisés parrainé par WWF Indonésie, ainsi que la salle du parc national. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu, toko kartun favoritmu dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu Likaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu.
satu dunia di warnamu pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku dunia di warnamu pesonamu. Tanggalan tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Oh, 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 oh. Menyisaku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh candu. Jebak aku betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Labyrinthe, chantée par Toulouse. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, aujourd'hui nous vous invitons à visiter Rembang, la province de Java Central, pour goûter la gastronomie spéciale de Rembang. En plus d'être célèbre comme la ville de sel et batik lasam, Rembang est également célèbre pour son gastronomie spéciale qu'on ne peut pas trouver dans d'autres régions d'Indonésie, c'est lontong tuyuhan. On l'appelle lontong tuyuhan parce que les fabricants et vendeurs de produits alimentaires venaient du village de Tuyuhan, district de Pancur. Lontong est un aliment à base de riz, généralement emballé dans des feuilles de bananier. Cet aliment typique se compose de lontong et de légumes avec du lait de coco, pas trop épais et plutôt épicé, qui met en valeur le goût de noisettes, de cumin et d'oignon. Cette nourriture est généralement complétée par un mélange de poulet haché, de poulet au whisker et de tempeh à la saveur rouge épicée. Pour éliminer le goût épicé, le vendeur fournit généralement une boisson simple. C'est des crochets d'eau que l'on peut boire gratuitement. La crochet est un récipient généralement en terre cuite d'une contenance de quelques litres. Mais ne vous inquiétez pas, pour vous qui ne sont pas habitués aux boissons traditionnelles, vous pouvez également commander d'autres boissons. Chers auditeurs, lentong tuyuhan est unique. Si en général lentong est de forme ovale, lentong tuyuhan se présente sous la forme d'un triangle. Autre particularité, la majorité de vendeurs sont des hommes. C'est à cause du mythe que lentong tuyuhan seront plus délicieux lorsqu'elles seront servies par un homme. Une autre unicité est qu'on utilise l'eau du village de Tuyuhan pour la cuisson. Sans eau provenant de Tuyuhan, le lentong sera moins savoureux. Par conséquent, si lentong Tuyuhan vendu en dehors de la région de Rembang, le goût sera différent de celui d'origine. En moyenne, des vendeurs au centre de vente lentong tuyuhan commencent à vendre de 12h du midi à 8h du soir. Une assiette de lentong tuyuhan coûte environ 15 000 rupiah à 20 000 rupiah. Chers auditeurs, voilà le magazine culturel. Visitez Rembang, Java Central et goûtez le lontong tuyuhan.
Bicara hanya tersenyum, tak pernah kukira kau begitu cepat memikirku tanpa basa-basi. Setiap kau ada rasanya hanya ingin kau. Memikirku tanpa bahasa basi. Setiap kau ada rasanya hanya inginkan berdua.
Oh,
Serviteur, setelah Samsung de JBEPT ang titulé di dekatmu, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde. Pour la République suivante, voici donc l'Indonésie en couleur.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur, informant sur Jakarta qui est incluse dans la liste des villes potentielles de la start-up mondiale. Basée sur le rapport mondial sur les écosystèmes de start-up 2019 publié par Start-up Genome en mai dernier, Jakarta est un concours puissant à égalité avec les grandes villes dans le monde telles que la Corée du Sud, Moscou et Japon. Jakarta est une ville capable de rivaliser sur la scène mondiale parce qu'elle compte 4 start-up de liqueur indonésienne, à savoir Tokopedia, Gojek, Traveloka et Bukalapak. Liqueur est un terme pour les start-up qui ont une valorisation de plus d'un milliard de dollars américains. Startup Genome positionne Jakarta comme une ville dotée d'un écosystème de start-up en phase de mondialisation tardive, aux côtés d'autres grandes villes telles que Sydney, Paris, San Diego et Sao Paulo. La catégorie épinglée à Jakarta ne représente qu'une bande sur la meilleure catégorie d'écosystèmes habité par des villes telles que Silicon Valley, New York, Pékin, Singapour et Londres. Genome a plusieurs raisons d'inclure Jakarta dans la liste. Un exemple est l'assouplissement des réglementations gouvernementales telles que la création d'un conseil accéléré pour l'achat et la vente d'actions de start-up par la bourse indonésienne et l'existence d'incubateurs et accélérateurs déjà bien implantés à Jakarta. En outre, le rapport mondial sur les écosystèmes de start-up indique que le sous-secteur le plus performant à Jakarta est l'industrie des technologies financières. Selon le rapport mondial sur les écosystèmes de start-up, l'Indonésie a un taux très élevé d'adoption de la technologie Internet et mobile, où 75% des transactions d'achat en ligne sont effectuées à l'aide d'appareils mobiles. Le président de la Société indonésienne de la création et de la communication, Jody Hernadi, a déclaré que c'était la première fois que l'Indonésie participait au classement de l'écosystème de start-up mondial. Ce classement aide à comprendre la position de l'Indonésie sur la carte de start-up numérique mondiale. C'était la rubrique « Mon Indonésie » de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Sejatiku ada cinta dan ada benci. Kita satu dua tiga. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu. Tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu ku temukan cahaya hatiku. Denganmu ku temukan cinta sejatiku. Ada cinta dan ada benci. Kita tertawa dan menangis hingga akhir umurku nanti. Kau tak pernah terganti, hanya kau yang bisa.
Cerita setelah sang-song ang titule tak pernah terganti, Shang Tepa Abdul e The Coffee Theory. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Cerita, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Voice of Indonesia, l'Indonésie à tout le monde. Serviteur, bonsoir, bienvenue au programme quotidien Le Magazine Musical, un programme qui vous présente la musique indonésienne, soit traditionnelle ou pop. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous allons vous présenter une chanson héroïque intitulée Pantang Mundur, chantée par Titiek Puspa. La chanteuse légendaire Titiek Puspa est également connue comme compositeur de chansons. Il y a des chansons avec un rythme joyeux et aussi celles qui peuvent toucher les sentiments de chaque être humain ou qui peuvent exciter l'esprit comme la chanson intitulée Pantang Mundur. Cette chanson semblait donner l'esprit à tous ceux qui l'écoutaient. La chanson raconte l'histoire d'une épouse dont le mari est parti en guerre pour se battre pour la défense de la patrie. La femme a même prié et a conseillé à son mari de ne pas se retirer pour se battre pour la patrie. Bon, serviteur, voici donc la chanson de Titiek Puspa intitulée Pantang Mundur. Bonne écoute et à bientôt.
Pasti kau pahlawan, ku relakan di kau berjuang demi keagungan negara. Kanda pergi ke Medan Jaya. Kanda teringat, ingatlah hari seorang. Jadikan daku semangat, terus
semaju pantang mundur. Air mataku berlinang karena bahagia putra pertama lahir sudah ku pintakan nama padamu pahlawan. Sembah sujud ananda dirgahayu lakakanda jayalah di
Voice of Indonesia.
Siang itu surya berapi sinarnya. Tiba-tiba redup langit gelap, hati yang bahagia terhentak seketika. Malapetaka seakan melinam. Berita menggelegar aku terima. Kasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga. Tak percaya tapi nyata. Ku berjemput di sisi jasad. Dan air mata segala dosa ku mohonkan ampunannya. Seakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi kita akan bercanda? Kapan lagi
of Indonesia.
Marilah kemari, hey 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 hey.
Voice of Indonesia.
Bimbi nama seorang gadis sederhana tapi manis. Pergi dari kampungnya, tujuannya ke kota, ingin hidup coba-coba. Cepat dia sesuaikan diri, lagaknya bak peragawati. Uang entah dari mana, segala dia pun punya, dan langsung ngetop namanya. Bibi tadi kenal lagi, wajah serupa Bibi memelas pucat nasi, menanti di jalan sepi. Menanti di jalan sepi.
C'est Zuri Talk, c'est l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.